franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Dernière journée dans l'Hérault, consacrée en première partie à l'un des plus anciens réseaux d'éducation populaire encore en exercice. Il s'agit des Compagnons Bâtisseurs. Cette association nationale, présente dans 10 régions de France, est née il y a plus de 50 ans afin de répondre au droit d'habiter un espace digne et adapté. Or, les services du réseau, animés par des professionnels nombreux bénévoles, consistent entre autres à accompagner les personnes en difficulté à réhabiliter leur logement, responsabiliser chacun dans sa vie. La construction étant multiple, c'est construction d'un espace de vie et construction de sa propre vie, formée aux techniques du bâtiment avec une mission d'insertion, telles sont les grandes lignes de ce réseau historique représenté aujourd'hui par notre première invitée, Anne-Laurence Darras. Le portrait de l'antenne régionale du Languedoc Roussillon est à lire dans les pages numériques de La Vie grâce à Laurent Jibowski, notre confrère. Vous allez trouver le lien à notre page carnet de campagne. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, peut être aussi utile, voire indispensable, qu'elle peut devenir en quelques cas une sorte de tarte à la crème sans grand effet. Pourtant, elle signe la condition que devrait suivre toute entreprise soucieuse de la situation de ses salariés comme de l'environnement. Éric Goyard conseille et accompagne les entreprises et établissements sociaux et médico-sociaux dans l'application de ce principe. C'est chose rare pour être mentionné et il sera notre second témoin avec sa société Terre de Cocagne.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Anne-Laurence Darras, bonjour.
Bonjour.
Anne-Laurence, vous êtes directrice de la communication d'une association que je trouve très très belle. C'est un réseau national, celui des Compagnons Bâtisseurs, mouvement associatif d'éducation populaire, qui existe depuis combien de temps ?
Alors, le mouvement a été créé en 1957.
Oui. Et alors, il fait quand même des choses remarquables depuis la date de sa création pour améliorer l'habitat auprès de personnes parfois à faible revenu, faible moyen.
Tout à fait. Donc en fait, nous, on a une action qui est une action formidable, qui existe donc depuis très longtemps, mais qui est encore très innovante, qui s'appelle l'auto-réhabilitation accompagnée. Et on part du principe que les personnes vont pouvoir agir par elles-mêmes dans leur logement. Donc elles sont accompagnées par un technicien du bâtiment, voilà. Mais la condition, c'est que les personnes participent à leur chantier. Et pour le coup, on s'adresse souvent à des publics qui sont quand même en grande difficulté sociale au départ, financière, voilà un petit peu le cadre de notre action.
Et Sarah nous avait écrit pour nous parler des Compagnons Bâtisseurs sur la région Languedoc-Roussillon. Autrement dit, on retrouve le mouvement à peu près dans chaque région ?
Non, alors voilà, aujourd'hui on est implanté dans 10 régions en France, dont la région Languedoc. Et par contre, on a un projet politique très ambitieux, c'est de développer l'autoréhabilitation accompagnée sur l'ensemble du territoire dans 5 ans. Voilà, alors avec des compagnons ou sans compagnons, mais en tout cas de développer l'autoréhabilitation accompagnée, qui aujourd'hui est un dispositif quand même mal reconnu par les politiques publiques. On a beaucoup de partenaires qui nous soutiennent, mais ce n'est pas tout à fait suffisant.
Et alors, d'abord, il y a confusion possible. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y avait un problème de visibilité. J'espère que ça va s'améliorer pour le réseau. C'est Compagnons Bâtisseurs. On dit, les Compagnons du Devoir.
Oui, alors ça nous arrive très souvent.
Bah oui.
Et finalement, on n'a pas grand-chose à voir avec les Compagnons du Devoir, si ce n'est peut-être en commun des métiers du bâtiment ou de l'artisanat liés au bâtiment. Mmh. Après, on serait plutôt, nous, proches de gens comme les Compagnons d'Emmaüs, ou ATD Quart-Monde, voilà, c'est un mouvement de solidarité.
En 2013, vous avez accompagné 900 foyers dans leur logement, c'est-à-dire 2600 personnes. Il y a eu des animations collectives, près d'un millier, 12 000 journées de chantier, avec 144 salariés, des personnes aussi qui sont en contrat d'insertion. Enfin, c'est étonnant ce que vous réalisez.
Alors c'est étonnant, mais en fait on s'est engagé là, d'ici 5 ans, multiplié par 10 tous ces chiffres.
Mais avec qui vous pouvez réaliser ça ?
Alors, pour le moment, donc, on a un ensemble de partenaires qui sont quand même des partenaires un petit peu des collectivités publiques. Parce que pour monter une action comme ça, sur un territoire déjà, ça a un effet de mise en présence de différents partenaires qui ne travaillent pas ensemble en temps normal, donc des CAF, des communes, des départements, des régions. Donc là, à l'échelle du réseau, il y a à peu près 220 partenaires nationaux qui contiennent à la fois aussi des partenariats privés, donc certaines fondations, la Fondation Abbé Pierre, bien évidemment, la Fondation Ailogio, dont vous allez beaucoup entendre parler, parce qu'on participe à un grand événement sur l'amélioration de l'habitat à Bordeaux, le 8, donc on y sera. Et le message pour les auditeurs qui habitent par là-bas, ben c'est d'y être aussi.
Bonne idée.
Voilà. Puis surtout, devant les difficultés à financer nos actions, on a quand même créé un fonds de dotation qui va permettre de solliciter la générosité des entreprises, parce qu'on a beaucoup de choses à faire en partenariat avec les entreprises.
Hein. Parce que vous, ce que vous apportez, Anne-Laurence, c'est les compétences, le savoir-faire avec des professionnels, c'est les conseils, l'accompagnement. Il faut du matériel aussi pour tout ça.
Tout à fait. Donc là, le matériel, en fait, c'est des budgets qui sont montés, on demande une petite participation aux habitants, tout n'est pas pris en charge. Et pour le coup, sur les matériaux, on est en train aussi de monter des plateformes innovantes de dons de matériaux, justement, pouvoir financer des achats de matériaux à bas prix pour certains chantiers qui rentrent dans aucun dispositif, et ça, il en existe aussi, quoi. Il y a vraiment un grand, grand chantier. Il faut impérativement qu'on développe nos actions, que le mouvement gagne en notoriété. Mais là, c'est en bonne voie. Voilà.
Oui. J'espère qu'on va y contribuer, qu'on va entendre parler des compagnons bâtisseurs. Parce qu'il y a tellement de groupements aujourd'hui qui militent en faveur de l'amélioration de l'habitat. On parle d'habitat social, mais en général de l'habitat et du logement. Que vous faites partie de ce grand maillage et c'est essentiel qu'on vous connaisse.
Très bien, oui, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à nous, en tout cas, et puis j'encourage toutes les personnes qui souhaitent s'engager, en tout cas, dans ce type d'action, de nous contacter.
Absolument.
On a un site internet qui est assez bien renseigné, il y a une dizaine d'implantations locales, on a besoin de plein d'énergie, que ce soit aussi pour porter, créer de nouvelles associations sur de nouveaux territoires, donc c'est le cas en Midi-Pyrénées, c'est le cas en Nord-Pas-de-Calais, des personnes qui acceptent de rejoindre notre mouvement et de porter cette belle action avec nous.
Le site compagnon pluriel, compagnonbâtisseur.org, c'est une adresse qui va s'afficher, comme toujours, à l'issue de cette émission, à notre page Carnet de Campagne. Merci Anne-Laurence.
Je vous en prie, c'est formidable. Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Au revoir. Avec ce slogan, pour les restaurants, il y a le guide étoilé, pour les artisans, il y a désormais le guide du goût. Paul, correspondant des Carnets, et Karim ont conçu un réseau baptisé Saveurs Locales, né en 2009 du regroupement d'artisans de l'Hérault et du Gard. Ce réseau a donné naissance à un guide en ligne qui traverse les régions de l'Hexagone et met autant en valeur les produits alimentaires, ici on parle plus d'ailleurs de produits gourmands, que les artisans qui les façonnent, transforment ou commercialisent. Saveurs Locales est devenue une marque et elle accorde une certification aux établissements d'hébergement, de restauration ou de vente de produits, ainsi qu'aux exploitants agricoles, transformateurs et artisans. Alors c'est une distinction de qualité supérieure qui traduit ou qui veut traduire l'excellence des artisanats locaux. Le site internet, vous irez jeter un œil, répertorie les circuits, les escapades gourmandes, les événements, ainsi que les producteurs et artisans des régions françaises. Il est destiné à un tourisme des terroirs, mais pas uniquement un tourisme de visiteurs étrangers. Ce site est consultable par tout un chacun, à commencer par les premiers curieux que vous êtes des savoir-faire de la table. Alors pour l'instant, le réseau se limite à la région Languedoc-Roussillon et à Paris. Mais sans doute l'exercice va se propager. guidedugoût.fr. Et puis dans un autre genre de conseil, Fabrice et tant d'autres nous ont sollicité pour parler de Allez-Zou. Allez-Zou, c'est le portail gratuit et bénévole des événements culturels du département et plus particulièrement du Grand Picénois, c'est-à-dire le Grand Pézenas, si vous préférez. Allez-Zou recense au jour le jour les rendez-vous du plus petit genre spectacle en appartement au plus modeste mini-festival ou guinguette. L'animatrice du site ne demande rien, ni argent, ni pub, écrit Fabrice, et ses éditos sont drôles et engagés. Par exemple, la programmation culturelle soutenue par la ville de Béziers est d'emblée censurée. Alors c'est peut-être un marqueur d'opinion. Personnellement, je regrette toujours quand le citoyen est privé d'informations, d'autant que la culture et les arts peuvent participer à la progression des idées et aux prises de conscience salutaires. Mais ça, c'est mon avis. Et comme disent les imbéciles, je le partage. Allez-zou.fr pour le site internet. Éric Goyard, bonjour.
Bonjour.
Éric, fondateur, gérant de la société Terre de Cocagne, vous nous aviez averti de cette TPE que vous avez créée en 2007 après avoir eu une longue expérience dans le domaine social.
Oui, tout à fait, une quinzaine d'années.
Vous en aviez assez ou vous avez fait un bilan pour passer à une autre activité ?
J'ai eu envie d'ouvrir de nouvelles portes sur un secteur qui souvent est mal perçu par les travailleurs sociaux, celui de l'économie marchande.
Alors, une économie marchande dans un secteur social ?
Oui, une économie marchande dans un secteur social parce qu'on ne se refait pas. C'est-à-dire que même si j'avais soif de me tester sur certaines choses, j'avais quand même besoin de l'humain, comme on a probablement tous besoin de l'humain.
Alors, Terre de Cocagne, qui est une définition, selon vous, de l'homme et de l'humain, est une société de conseil, d'audit, d'accompagnement en responsabilité sociétale. On va parler de la RSE, la responsabilité sociétale environnementale ou responsabilité sociétale des entreprises. Il y a un petit souci, c'est que très souvent, on la critique. Il y a des bonnes démarches et puis il y a de moins bonnes. On la critique en disant c'est de l'hygiène de surface, c'est du social washing.
Ça peut l'être aussi. Ce qui m'intéresse dans la responsabilité sociétale, c'est pas la norme en elle-même, parce que la norme, finalement, elle dit ce à quoi on peut s'intéresser. C'est que l'on porte attention à la démarche et pas uniquement au résultat.
C'est vrai. Mais comment on mesure ça ?
On ne mesure pas l'engagement. D'ailleurs, différents labels, comme le label Lucie, mesurent et valorisent l'engagement plutôt que le résultat.
Oui. Et alors, vous avez des clients quand même assez particuliers, parce que vous travaillez avec des ESAT, des cliniques, des polycliniques, ou des grandes entreprises aussi. Mais c'est vrai, vous intervenez entre autres dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Oui, on ne se refait pas.
Et alors, quels sont jusqu'à présent les bénéfices de cet accompagnement dans une responsabilité sociétale, par exemple, d'une clinique ?
En redonnant du sens et en montrant que la RSE ou le développement durable, c'est pas une cerise sur un gâteau qui est déjà immangeable parce que c'est trop stratifié où les choses sont pas collées les unes aux autres. Donc en redonnant du sens, finalement, on permet aux gens, au public, aux clients, de redevenir acteurs, de se dire ah ben oui, j'ai des choses à faire.
Et donc, par exemple, dans le domaine médico-social où on a des personnes qui peuvent être dans des cas de fragilisation, comment faire entrer dans la responsabilité globale ces personnes qui sont déjà parfois un petit peu perdues et désœuvrées ?
Le slogan de ma société, c'est rendre chacun acteur de changement équitable. Eh bien, je crois que tout est là. Hein. C'est-à-dire que quand on prend le temps d'expliquer aux gens, de leur faire comprendre les enjeux à la fois globaux pour la planète, mais aussi locaux pour leur territoire, et complètement relatifs à leur environnement, de leur établissement, de leur lieu de vie, eh bien, d'un seul coup, ils comprennent que c'est pas d'une manière théorique qu'ils peuvent être vertueux, c'est d'une manière pratico-pratique.
Des exemples concrets.
On a fait une démarche RSE auprès de travailleurs handicapés en ESAT.
Oui.
Et on a construit avec eux, sur la base de documents commerciaux, vous savez, ces kakébono qu'on voit là souvent, que les sociétés utilisent pour se présenter, on a fait avec une exposition sur la responsabilité sociétale et environnementale.
Oui.
Et bien, par exemple, sur les thèmes tels que préserver la forêt, faire attention à l'eau, ou encore lutter contre les discriminations, ils sont capables de repérer, on est capable de les aider à repérer les enjeux globaux, tels que les droits de l'homme, tels que la citoyenneté, mais aussi de se dire, tiens, moi, dans mon ESAT, voilà ce que je peux faire pour améliorer cette thématique-là.
Et quand vous intervenez auprès d'une petite entreprise, comme vous dites, avec un petit sourire, clermontoise nommée Michelin, 110 000 collaborateurs dans le monde, on est à une autre échelle, on a d'autres pratiques. D'abord, j'imagine que cette entreprise a déjà ses propres engagements et ses propres cadres en matière de responsabilité sociétale. Qu'est-ce que vous apportez de plus ?
La méthode qui permet de redonner sens et d'articuler chacune des paroles. C'est-à-dire que Michelin, mais pas uniquement Michelin, d'une manière générale dans les grands groupes, la question du développement durable a été abordée souvent par la question de la norme et du processus qualité. C'est-à-dire que quelque chose que l'on fait non pas pour que ça aille mieux, mais pour montrer si ça va pas que c'est pas notre faute.
Oui, d'accord. Combien vous êtes pour organiser cet accompagnement et monter ces conseils en responsabilité sociétale ?
Terre de Cocagne, c'est une TPE, et c'est une TPE à 4 salariés permanents. Et puis on travaille avec une quinzaine de collaborateurs réguliers ou ponctuels.
Terredecocagne.fr pour l'adresse internet que vous allez retrouver à notre page. Carnet de campagne sur franceinter.fr. Merci Éric Goyard.
Merci beaucoup Philippe Bertrand.
Voilà la dernière édition de l'Hérault avant de rejoindre Nicolas Soufflet. La semaine prochaine, on entame une nouvelle traversée département du Tarn. Ensuite, nous serons dans la Gironde et vous pouvez aussi nous écrire depuis la Charente-Maritime, la Charente et également la Corrèze. Merci à Marie-Christine Thomas et Marie-Annick Rimbaud qui réalisaient les émissions cette semaine, assistées de Joël Levert. Merci aux techniciens et siennes de France Inter qui ont labeuré, comme chaque semaine, bien labeuré aujourd'hui, Dimitri Gronoff, Nicolas Soufflet, assisté de Yann Paillet, à Saint-Pons de Thomières pour le jeu des 1 000 euros.